avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, être locataire de son logement en ville, pourquoi tant de galères? À Kinshasa, il faut payer 10 mois de loyer en avance pour obtenir un logement. Il y a aussi les loyers qui flambent à Dakar, malgré une loi sur la baisse des loyers. En France, c'est demain le début de la trêve hivernale qui interdit l'expulsion d'un locataire jusqu'au 31 mars. 19% des habitants de région parisienne auraient du mal à payer leur loyer. Des élus demandent le gel des loyers comme à Berlin. Il y a aussi les logements mal entretenus, voire insalubres, ou encore ce sentiment d'être facilement expulsable, comme à Londres. Et puis, loin des grandes villes, le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Alors, quelle solution pour les droits des locataires? On va en discuter avec nos invités. Bonjour, Yankel Fijalkov.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, vous êtes chercheur au Centre de Recherche sur l'Habitat et vous êtes l'un des auteurs d'un ouvrage collectif, Vulnérabilité résidentielle, aux éditions de l'Aube. Vous avez aussi publié une sociologie des villes. On sera aussi en ligne tout à l'heure avec la Fondation Abbé Pierre. On entendra Manuel Domergue, qui est directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Et puis des reportages à Paris, à Dakar et bien sûr vos appels, les voisins, si vous êtes locataire ou que vous soyez dans le monde. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Êtes-vous au courant de vos droits? Est-ce qu'il y a des réglementations? Est-ce que elles vous procurent une certaine sécurité? On veut vous entendre de vive voix.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Yankel Fijalkov, je vais vous lire quelques messages de voisins et voisines qui nous écrivent sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr commenter. Marcel, il est dans le quartier de Matadi à Kinshasa. Chaque jour, la population s'accroît et donc les logements libres dans la ville sont de plus en plus rares. Dans certains quartiers où il faut compter $50 pour une seule pièce, alors rapporté au salaire de base, c'est énorme, 83 000 francs congolais. Peu de gens peuvent y accéder. On a Kax aussi à Bukavu qui est dans une autre ville de RDC. Dans les pays où il y a de bonnes infrastructures routières, nous dit Cax, on peut habiter dans un coin reculé de la ville ou de la banlieue parce qu'on n'aura pas de difficulté pour se déplacer, soit par ses propres moyens de transport, soit avec des transports en commun. Et c'est vrai ça aussi, hein. C'est que plus les routes sont compliquées, plus il faut se tasser en centre-ville. Youssouf est à Nouakchott, en Mauritanie. Il nous dit, moi j'habite dans la capitale mauritanienne, en plein cœur de la ville. Je suis locataire dans un immeuble. Le propriétaire me pousse à partir parce que je mets du temps à payer mon loyer. Mais je n'arrive pas à faire des économies. C'est un calvaire.
Qu'est-ce que ça me dit? Je pense que c'est dans des cas très... très fréquent également dans d'autres villes. Le problème certainement central, c'est le problème de l'attractivité des villes. Nous sommes tous attirés vers les villes où il y a de l'emploi, mais où il y a aussi une bonne densité de transport, des facilités, mais également se paye.
Et puis également aussi, la ville, c'est les lumières de la ville, comme on dit, c'est l'emploi, mais c'est aussi l'accès à la santé, l'accès à l'éducation pour la famille. En tout cas, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 si vous êtes locataire et dans la galère.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Et tout de suite, reportage à Dakar. Jali, la trentaine, est une fille à la démarche énergique, en t-shirt blanc, jean. Originaire de Mbourg, Jali est locataire à Dakar depuis 10 ans, où elle travaille dans une ONG. Charlie Dupio l'a retrouvée en bas de son immeuble, dans le quartier Liberté 6 Extension. C'est un quartier qui est plutôt prisé, parce que c'est à 20 minutes du centre, sans embouteillage. Et elle est en colère contre le propriétaire de son appartement.
Je suis là, c'est mon immeuble, un R plus 3, un rez-de-chaussée et 3 étages. Il y a un appartement sur chaque palier.
Et vous êtes à quel étage?
Au premier. Attends, je cherche mes clés.
Il y a du monde chez vous?
Vous n'avez pas de clés? J'ai une nièce qui vit avec moi, j'ai une de mes filles elle aussi et mon grand frère. Bonjour.
Mon
J'ai 1, 2, 3, 4 chambres plus un salon.
Moi, je suis arrivée ici en mars. C'était en pleine saison sèche. Il avait tout repeint, tout mis à neuf. C'était nickel chrome, quoi. Mais avec la saison des pluies, ça dégringole vite fait. Et là, on est en plein bras de fer parce que je lui ai dit, je ne paye pas le loyer tant que ces trucs-là ne sont pas réglés. Ou bien qu'il me rembourse, je vais aller chercher quelque part d'autre où habiter. Parce que c'est compliqué quand même de payer 260 000 francs de loyer pour ça. 400 euros. C'est cher. Des fois, on est obligé de faire avec. Parce que déménager, c'est compliqué à Dakar aussi. Le grand problème, c'est ça. C'est qu'ici, pour déménager, il te faut au minimum mettre de côté 1 million, 1,5 million pour déménager.
Comment ça se fait?
Selon le loyer que tu payes, tu dois payer 2 mois de caution, plus 1 mois de commission à l'agence, et le mois d'entrée, ça te fait 4 mois. Comme 4 mois de loyer. Et vu le niveau de vie, on connaît le salaire moyen au Sénégal, ça ne fait pas 60 euros. C'est pas normal de payer des loyers aussi chers à Dakar. C'est... Et surtout cher et pas conforme. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus.
C'est quoi le problème? C'est déjà avant de vous mettre bien, ni?
Ah, bah, l'endo. C'est presque 50% du salaire qui part sur un loyer. Après, il y a l'électricité, il y a l'eau. Mais en 2014, il y a eu la loi. Elle réduisait les loyers entre 33% et 17%, je crois, selon le prix du loyer.
C'était une loi de 2014, passée au niveau du Sénégal.
Oui.
Cette loi oblige les propriétaires à baisser leur loyer.
Oui. Ce qui s'est passé, c'est que moi, mon propriétaire, il a accepté. À l'époque, j'habitais toute seule. J'avais un studio, j'étais à West Foire et je payais 150 000. Donc, mon loyer a baissé de 33%. Et 3 mois après, on reçoit un courrier, tout le monde. Il donnait un délai de 2 mois. Pour libérer les appartements parce qu'il doit faire des travaux.
À tous les locataires de l'immeuble.
Il possédait l'immeuble, tout le monde. 2 mois après, on a vu un alloué sur l'immeuble. Et quand on a demandé les prix des locations, moi je payais 150 000 pour un studio, c'était passé à 175 000. Il y avait 25 000 francs de plus.
37 euros.
Presque 20% du prix du loyer qui était majoré en plus. Il y a beaucoup de propriétaires qui donnaient une sommation à leurs locataires pour les faire sortir. Et derrière, ce qu'ils faisaient, ils réaffichaient les mêmes prix, souvent même plus cher qu'avant, avant la baisse.
Parce que la loi n'obligeait qu'à baisser les loyers actuels,
oui,
par rapport aux locataires actuels.
Actuel. Donc, si quelqu'un d'autre venait, on pouvait fixer les prix qu'on voulait. Quand on a découvert ce stratagème, moi, j'ai demandé autour de moi, sur mes réseaux sociaux, les pages et tout. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont eu le même problème.
Donc, cette loi n'a pas été respectée?
Du tout. Je crois fortement que c'est cette loi qui a aggravé la situation.
Alors, on a aussi un message de Sylvain à Dakar qui nous a posté un commentaire. Louer dans les grandes villes à l'image de Dakar, c'est un vrai problème avec des coûts de location très chers. Il évoque 50 000 francs CFA à plus de 300 000 francs CFA, c'est-à-dire presque 500 euros. On n'a pas l'impression comme ça, mais on arrive finalement à des prix qui peuvent être pas si élevés entre Dakar et Montréal. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une galère un peu mondialisée des locataires, vous diriez? Yankel Fijalco.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que plutôt que de parler de crise du logement, on ferait mieux de parler de crise des loyers. Ce serait plus exact. Et puis, ce qu'il faut voir, bon, c'est un petit peu ce qu'on explique dans ce livre collectif qu'on a écrit avec Florence Bouillon, Agnès de Boulay, Pascal Détriche-Ragon sur les vulnérabilités résidentielles. C'est qu'au fond, les vulnérabilités résidentielles, c'est un rapport social. Et c'est un rapport social, cette dame de Dakar nous l'explique bien, c'est un rapport social entre son propriétaire et son locataire. Et l'incapacité de l'État à réguler. Bon, alors c'est ce qu'on observe aussi à Berlin, par exemple. Ils ont décidé un gel des loyers, mais tout de suite, les propriétaires ont voulu anticiper ce gel et ils ont augmenté puisque le gel va durer 5 ans.
Et quand voilà. Vous le disiez, un rapport social entre le propriétaire et le locataire, c'est pas seulement le prix du logement, c'est toutes ces tracasseries ou par rapport à une insalubrité dans l'appartement, à des petites travaux, à un loyer payé en retard, c'est tout ça en fait.
Voilà, tout ça. Et donc effectivement, ça concerne également ce qu'on appelle le logement insalubre ou le logement indigne ou le logement indécent, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'au fond, on a mis en place des procédures. En France, on a mis en place une procédure sur le logement indécent. Et bon, cette procédure, on n'a pas tellement de retours parce que c'est au locataire de se plaindre. Et ce locataire qui devrait se plaindre et porter devant la justice le problème de son logement indécent, il est aussi à la merci du propriétaire et de la résiliation du bail. Donc ce sont des cas chaque fois très difficiles.
Globalement, c'est toujours dû à une offre de logement qui n'est pas suffisante par rapport à la demande, ou c'est plus compliqué ?
Pour Dakar, on a effectivement un gros problème de niveau de construction. Le niveau de construction n'est pas à la hauteur de la demande d'une ville qui représente quand même 20% de la population du pays. Donc il y a une tension très forte de gens qui viennent du monde rural, des provinces, et qui sont attirés, comme le disait dans le début de l'émission, par les lumières de la ville, l'emploi, la santé, la scolarité, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres raisons que simplement l'offre insuffisante ? Est-ce qu'il y a des phénomènes pernicieux ? Je pense notamment à des investisseurs qui achètent des logements qui ne sont pas forcément tout le temps remplis.
En fait, il y a plusieurs problèmes qui se posent et qui vont conduire à cette crise des loyers. Un problème, ça va être par exemple le nombre de propriétaires, le taux de propriétaires qui vont investir sur un lieu et qui vont diminuer forcément l'offre locative. C'est ce qui se passe à Tel Aviv et qui a mis 500 000 personnes dans la rue. En 2011.
C'est-à-dire exactement, alors qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv à l'heure actuelle ? Il y a trop de propriétaires, c'est ça, qui ne remplissent pas les logements ?
Il y a un investissement très important dans l'immobilier venant de l'étranger et de locaux qui ne sont pas occupés à temps complet et qui ne sont pas mis sur la location. Un autre énorme problème, c'est Airbnb. C'est un problème qui... Alors, Airbnb et toutes les autres plateformes...
qui concernent aussi Tel Aviv, d'ailleurs.
Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire toutes les villes touristiques, attractives. Et c'est un problème mondial. Dans toutes ces métropoles, on a des observatoires d'Airbnb, pas développés par Airbnb, la compagnie, vous m'entendez bien, mais effectivement, les bureaux d'urbanisme, les bureaux d'observatoire, les statistiques observent des phénomènes qui dévorent les quartiers et réduisent complètement l'offre locative.
C'est ça, ce sont des logements qui sont comme confisqués finalement aux locataires qui ont besoin de se loger à l'année. C'est le cas par exemple, alors on a beaucoup vu des villes espagnoles, mais c'est le cas aussi de Lisbonne qui était une ville qui était pas tellement chère pour les Portugais qui avaient besoin de se loger il y a encore quelques années.
Oui, voilà, alors l'opération est devenue dramatique à Lisbonne. Il y a actuellement 13 000 logements Airbnb dans une ville qui fait à peu près 600 000 habitants. Les prix ont été multipliés par 4 depuis 5 ans. On a très peu de logements sociaux. Alors ça, il faudrait en parler, mais les logements sociaux font quand même tampon à ces phénomènes. Et donc, on a une liberté aussi de régime de baux. Les droits des locataires sont très fragilisés par des lois récentes. Et donc, là aussi, on a des niveaux de loyers qui sont inaccessibles
par rapport au salaire. Les grandes manifestations internationales, les conférences, les manifestations sportives, tout ça, il y a des villes qui sont plus spécialisées que d'autres pour toutes ces conférences. Ça a des répercussions sur le marché locatif ou pas ?
Énorme. C'est-à-dire qu'au fond, les villes sont en compétition elles-mêmes, sont en compétition pour le marché du bureau, mais c'est un autre sujet, sur l'attractivité, recherche l'attractivité pour les grands sièges internationaux. Et donc, effectivement, ça crée des polarités, ça crée une demande très forte. Et bon, parmi les facteurs qui sont importants aussi, et notamment dans ce qu'on appelle les pays du Sud, Sud, improprement d'ailleurs, c'est les actifs internationaux. Les actifs internationaux qui ont des revenus qui leur permettent d'aborder le marché
et
local.
Et alors, toute cette problématique de crise du logement pour les locataires, de crise des loyers, comme vous le disiez d'ailleurs, ça a des répercussions sur le marché du travail pour les entreprises, parce qu'ils ont des employés qui viennent de plus en plus loin, qui ont un pouvoir d'achat qui est mangé par leur loyer. Donc, ça crée du mécontentement aussi par rapport au salaire. Finalement, cette crise des loyers, elle profite à pas grand monde, à part aux propriétaires.
Bah oui, et puis, il y a effectivement des réflexions aujourd'hui au niveau de la Banque mondiale sur la performance des économies qui seraient affaiblies par la crise des loyers. Et ça, parce que, si vous voulez, dans une ville, il faut des gens qui tiennent les portes de la ville, ce qu'on appelle les key workers. Bon, et ces gens-là, il ne faut pas qu'ils aient trop de temps de déplacement. Oui. Il faut qu'ils logent sur place.
On vient de recevoir un message d'Amadou qui est à Dakar, qui dit « Moi, je paye 120 euros mon logement d'une pièce. C'est 50% de mes revenus qui y passent. Ce sont les petits boulots que je fais à droite et à gauche qui me permettent de m'en sortir. Ce n'est pas profitable pour l'économie. »
C'est pas profitable pour l'économie, effectivement. Et on a la chance d'avoir des gens qui acceptent de loger dans de très mauvaises conditions, mais à côté de leur travail.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle de la crise des loyers et des galères des locataires, où que vous soyez dans le monde aujourd'hui. Dites-nous aussi si vous avez des solutions.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Allez, on est entre nous, mais sur un espace très très large, toute la planète est presque concernée par la galère des locataires. Les grandes villes, bien évidemment, où il y a du boulot, de l'attractivité économique. On donne la parole à une voisine qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Yona.
Bonjour Emmanuel.
Yona, vous êtes une Camerounaise installée à Accra, au Ghana. Alors, ça a été la galère pour vous pour trouver un logement après vos études. Vous avez mis 3 mois pour trouver votre logement?
Oui, c'était vraiment une expérience très difficile pour moi, et surtout que j'étais étrangère et je ne parlais pas la langue locale du Ghana, qui est, bon je vais dire la langue de l'otui. Oui, je parle anglais. Alors, ma première expérience, après être finie, j'avais une famille d'accueil qui m'a hébergée et j'ai eu de la chance de trouver du boulot tout de suite après mes études. Alors, j'ai commencé la recherche d'un petit studio. Alors, ce que je cherchais, c'était juste une chambre, toilette, avec un espace cuisine. J'ai pris des agents, parce qu'ici au Ghana, il y a des agents. Alors, j'ai payé pour leur service et pendant près de 3 mois, ils me montraient des appartements, mais qui ne correspondaient pas à ce que je les avais demandé. Et ils me faisaient comprendre un petit peu, pour juste ma psychologie, qu'il me montrait des bidonvilles, il me disait que votre montant, votre budget, c'est ça que ça peut vous donner. Donc, vous devez augmenter.
D'accord. Ça s'appelle une forme de pression psychologique, en effet. Oui.
Oui, tout à fait. Donc, alors, ce que j'ai fini par comprendre, parce qu'il fallait que je quitte la maison, ma famille d'accueil, alors j'ai demandé à des collègues et à des amis autour de moi pour les demander est-ce qu'ils pouvaient m'indiquer qu'ils avaient des chambres libres dans des appartements où ils étaient, ce que je cherchais.
Ouais. Alors, vous avez fini par trouver un logement avec un loyer tout à fait correct, preuve que le chantage au bidonville, entre guillemets, était vraiment une mauvaise attitude de la part des agents immobiliers. Mais vous avez été obligé quand même de contracter un emprunt?
Oui, parce qu'ici au Ghana, ils exigent de payer 2 années cash.
2 années cash de loyer?
Oui, c'est la pratique courante ici, parce que la demande est plus forte que l'offre. Alors, j'ai dû prendre un emprunt sur le salaire, parce que je venais à peine de débuter. Ça faisait juste 2-3 mois. Je n'avais pas assez pour payer pour 2 années de salaire. J'ai dû prendre un emprunt et payer pour pouvoir avoir l'appartement.
Merci beaucoup, Yona, de nous avoir appelé. Et très bonne journée maintenant, vous qui êtes presque une heureuse locataire à Accra, au Ghana. Et vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. 2 ans de loyer.
Le record est battu.
Ouais.
Je connaissais les un an de caution de loyer, ce qui est pratiqué à Tel Aviv, mais je
en
ne
Israël.
Connaissais, voilà, mais je ne connaissais pas cette demande de caution sur deux ans, avec effectivement des taux d'effort qui sont
énormes.
Énormes,
ça veut dire que quand on démarre la recherche d'un logement, non seulement il faut bien gagner sa vie, mais en plus il faut avoir des économies importantes. Abdoulaye nous appelle de Conakry. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Pour vous, c'est compliqué aussi de trouver un logement à Conakry ?
Effectivement, trouver un logement à Conakry, c'est très très compliqué. Puisque moi, pour la première expérience que j'ai vécue, j'ai contacté d'abord des amis dans le quartier. Certains m'ont orienté vers les démarcheurs et certains m'ont dit qu'ils peuvent m'aider à trouver un logement. Maintenant, les amis que j'avais dans le quartier, c'est eux qui m'ont aidé à trouver le logement. Mais moi, j'ai négocié avec le propriétaire du bâtiment directement. Mmh. Il m'avait demandé de payer un an et demi.
Un an et demi d'avance.
Mmh. Mais après les négociations, nous sommes tombés d'accord de payer les un an. Mmh.
Alors, votre problème, Abdoulaye, là, c'est que vous allez devoir renégocier le prix du logement en mai prochain. Ça vous inquiète, Abdoulaye ?
Oui, ça m'inquiète, puisque quand l'échéance là termine, il va falloir encore renégocier. Là-bas aussi, je veux me demander de payer encore une année ou plus.
Même si vous êtes déjà dans le logement, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro, finalement.
Oui, quand l'échéance que j'ai payée là, l'ENAN que j'ai payée là, quand ça se termine, on remet le compteur à zéro. Ah. On reprend. Maintenant, on négocie encore. S'il me demande de payer l'ENAN, je négocie en fonction de mes moyens.
Et qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre, Abdoulaye ? Est-ce que vous connaissez vos droits en tant que locataire ? Est-ce qu'il y a des textes qui sont réglementaires qui peuvent être appliqués ? Comment ça se passe ?
Bon, ici à Conakry, mais bien sûr, il existe des lois, mais moi, je ne connais pas, voilà, puisque la majeure partie de la population guinéenne ne connaît pas les lois là. Mmh. En fait, la location est toujours négociée entre le locataire et le propriétaire.
Et à la faveur du propriétaire. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye. Très bonne journée à Conakry et bon courage pour la renégociation dans quelques mois. Vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Vous le disiez au début de cette émission, Yankel Fijalkov, c'est cette relation avec le propriétaire qui est compliquée. Il y a quand même des villes où on a trouvé des solutions pour que le marché soit moins tendu. Montréal, ça se passe mieux qu'à Paris, par exemple.
Alors, ça se passe mieux qu'à Paris, mais je voudrais revenir un petit peu sur quelque chose. C'est le fait qu'en fait, dans beaucoup de pays, on a des baux d'un an, c'est-à-dire des baux extrêmement fragiles et qui se renouvellent. On a la chance en France d'avoir des 3-6-9, encore que c'est un petit peu ébranlé.
Par exemple,
c'est des baux d'un an.
C'est ça. Donc, voilà. On est beaucoup plus facilement expulsable.
Voilà. Et chaque fois, ça se renégocie, ce qui montre bien, c'est pour ça qu'on a appelé ça vulnérabilité, cette fragilité de population qui sont en prise à des opérations de rénovation, des opérations locales avec leurs propriétaires, etc. Alors après, c'est vrai qu'il y a des villes où les locataires sont un petit peu mieux protégés. À Montréal, il y a cette fameuse régie du logement qui est copartenariale avec des représentants de locataires et de propriétaires. Ce que fait la régie du logement, c'est qu'elle garantit effectivement il y a des clauses de garantie pour réglementer un petit peu le contrat de location, mais il y a aussi des clauses sur les taux d'évolution des loyers.
Et ça veut dire que les locataires peuvent se plaindre auprès de la régie des logements, ils peuvent signaler des abus.
Absolument.
Et donc ensuite, ça donne de nouveau naissance à des négociations. On va revenir en région parisienne, si vous le voulez bien, où les jeunes sont les plus touchés par les difficultés de logement. y compris d'ailleurs dans la classe moyenne. Ils n'inspirent pas confiance aux propriétaires parce qu'ils accèdent tout juste au marché de l'emploi ou bien ils sont encore étudiants. Selon un récent sondage, 29% des 18-34 ans en région parisienne avouent avoir déjà falsifié une ou plusieurs pièces dans leur dossier de candidature. C'est souvent la fiche de paie qui est falsifiée pour augmenter les chances de signer un contrat de location. Être choisi parmi des dizaines et des dizaines de candidats, c'est la galère des mythos du logement, témoignage recueilli par Inès Edel Garcia auprès de jeunes à l'imagination débordante.
Quand on appelle pour prendre les visites, certaines personnes disent vous êtes en couple, vous êtes en coloc, et si c'est coloc, c'est niet et on ne peut même pas avoir la visite. Donc très rapidement, pour ne pas prendre le risque de ne pas avoir la visite, on disait de but en blanc qu'on était en couple, et ce qui était finalement plus simple parce qu'au moins on s'embrouillait pas. Juste, il faut pas qu'on se fasse la bise en arrivant à la visite si on n'arrive pas ensemble, sinon on va se faire cramer. Mais à part ça, ça change pas grand chose. Donc, en fait, l'agente immobilière nous a fait comprendre que pour le propriétaire, c'était très important d'avoir un bon feeling avec les locataires. Ça, ce site particulier qui nous a pas rencontré. Donc, comment on convainc quelqu'un qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. Mais voilà. Et elle nous a dit. Pourquoi pas, faites un mail où vous vous présentez, voilà, vous dites pourquoi vous voulez cet appartement.
Du coup, avec Léa, on a blindé notre dossier, on s'est dit ok, on veut cet appartement, il était vraiment génial, pas cher et au bon endroit, il faut qu'on mette le paquet.
Après la visite, je me suis posée dans un café, Julien est reparti et j'ai écrit le premier jet de la lettre qui nous a en partie permis de se faire accepter.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre au juste ?
C'était une présentation de nous, de notre couple. Donc là, c'était assumé. On était ensemble depuis 4 ans et on vivait un amour fou.
Une page et demie même de texte, disant que, en sous-entendant qu'on attendait un enfant et qu'on voulait construire notre vie avec cet enfant dans cet appartement. Donc on le dit, on l'écrit pas comme ça, mais on comprend qu'on se projette avec un enfant dans cet appartement, quoi. Et puis ensuite, 2-3 photos où on est tous les deux sur un scooter en Afrique. Il y a une autre photo, on est, je sais pas, en train de s'enlacer sur un bateau. Donc c'est des vraies photos qu'on a prises en vacances tous les deux et qui, pour le coup, font très couple. Du coup, on a essayé d'en savoir plus sur comment la visite s'était passée, combien de candidats avaient été sélectionnés. Et l'agent immobilier nous a dit, bah écoutez, il y avait quelques candidats qui sortaient du lot et clairement... Moi, vous étiez mon couple préféré. Et puis, j'ai été du coup hyper heureuse de voir que le propriétaire avait choisi ce dossier-là. Donc voilà, ça, l'opération séduction avait fonctionné.
Les mythos du logement. Après le faux couple, écoutez Laurent, un intermittent du spectacle qui s'est fait passer pour un étudiant. C'est le cas pour 16% des jeunes actifs.
J'étais chez mon beau-père à Paris et j'avais besoin donc de trouver un appartement, un truc à moi, maintenant que je gagnais un peu ma vie et tout. Et j'ai commencé donc à faire donc un dossier pour chercher un appartement en location en tant qu'intermittent.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est être intermittent ?
Quand tu es intermittent du spectacle, en gros, tu alternes entre périodes de travail qui sont par exemple des concerts et des périodes de chômage. Et ça, les agences ou même les particuliers, ils n'aiment pas du tout. Et du coup, ça m'a amené à me dire, en fait, si je veux avoir un dossier solide, il faudrait que je sois étudiant. J'étais prêt à m'inscrire à la fac et... je sais pas, à payer à un master, tu vois, genre d'histoire ou quoi, quelque chose comme ça, genre 400 ou 500 euros, un truc comme ça, pour payer mon inscription à la fac et avoir un dossier, donc un vrai dossier légal d'étudiant, quoi. Et une amie me dit, mais en fait, t'as pas besoin de faire ça, juste tu prends le certificat de scolarité que moi, je peux te prêter parce qu'elle est étudiante, tu changes le nom, ils vont pas te demander la carte forcément d'étudiant, tu donnes juste le certificat dans ton dossier et puis ça te fait un faux dossier, quoi, qui va te coûter 0 euros. Elle m'envoie son dossier, je change le nom, l'année scolaire et tout. Et je me retrouve, donc comme elle, étudiant, quasiment architecte en fin de cycle à Paris. Je finis par trouver un appartement, un petit appartement sur Paris qui est hyper charmant. Donc mon faux dossier est accepté. Donc moi j'étais content, mais à la fois, en fait j'avais une espèce de sentiment un peu ambivalent entre le fait d'être super content d'avoir trouvé un appart et en même temps me dire, bon ok, maintenant tu vas devoir rencontrer la proprio. Et là, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois mentalement dans ton rôle d'étudiant, d'architecte et tout. Donc, elle ne me pose aucune question, en fait. Hein. Elle ne me pose aucune question sur ma situation, les études et tout. Mais au dernier moment, elle me demande « Et elle est où ton école ?» Et ça, je ne savais pas, tu vois. Et du coup, je dis, alors je savais heureusement que c'est dans le 6e, je dis Paris 6e. Et après, elle me dit « Mais c'est quelle station de métro ?» Et là, je ne sais même pas la station de métro pour aller à mon école. Et là, en plus, je me dis, c'est derrière ligne droite, tu peux pas t'arrêter maintenant parce que là, c'est ridicule, quoi. T'es en train de signer les trucs, l'appart, il va être à toi. Et là, je bafouille un peu, je commence à pas être à l'aise et tout, et je dis, je sais pas, j'y vais en vélo. Mais oui, parce que les vélos à Paris, avec les Vélib et tout, c'est super bien pour se déplacer rapidement. Bref, elle a vu que du feu, et c'est super... enfin, au final, ça s'est très bien passé. Moi, du coup, j'étais hyper stressé, je pensais que ça s'était complètement... vu que j'étais pas à l'aise et que j'étais une espèce de double vie, quoi. Mais ça l'a fait, j'ai signé les papiers et puis maintenant je suis dans mon appart, donc tout va bien, quoi. Je suis content.
Allez, faux couple, faux étudiants. Je vous en propose un dernier. Marilyn est une jeune femme employée en CDI, hein, contrat à durée indéterminée, avec un petit salaire. Alors elle a trafiqué son dossier en faisant semblant de chercher une résidence secondaire pour sa mère à Paris.
Je me suis dit, mais en fait, notre dossier ne passera jamais. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un comme ma mère, clairement, qui, à elle seule, gagne 3 fois le prix du loyer, qui est fonctionnaire, ultra stable. Je me souviens très bien, j'étais dans la rue à ce moment-là, j'appelle ma mère, je lui parle de mon plan, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux bien être la locataire principale, prendre l'appart à ton nom? Moi, je fais des visites, je dis que c'est pour toi, ta résidence secondaire, je sais pas. Au début, elle a trouvé ça complètement fumeux. Bon, j'ai réussi à la convaincre. Et j'ai continué donc les recherches, les visites d'appart. J'avais inventé une petite histoire. Du coup, je leur racontais que ma mère voulait un pied-à-terre à Paris, mais qu'en même temps, toute la famille allait en profiter, que ça allait être un petit peu, enfin voilà, un pied-à-terre familial.
Et alors, ça a révolutionné les visites que tu as faites par la suite ?
Ouais, le premier appart que j'ai visité, j'ai même pas eu besoin d'appeler, puisque je suis allée, c'était une visite collective où ils te mettent sur l'annonce, rendez-vous à 10h à tel endroit. Il y avait... une quinzaine de personnes dans l'appart. J'ai même pas parlé à l'agent immobilier. J'ai rempli la fiche d'information, on va dire pour qui c'était, machin. Il fallait mettre le dossier en dessous. J'ai mis le truc, j'ai dit au revoir. Ma mère a été rappelée dans l'après-midi, quoi. Ils lui ont dit, vous avez l'appart. Oh, j'étais tellement... en y repensant, c'était incroyable. Enfin, on avait vraiment testé quelque chose pour voir si ça allait fonctionner. Et j'aurais jamais pensé que ça fonctionnerait aussi vite, en fait. Parce que elle habite pas à Paris, ma mère. Elle habite à 2 heures de Paris, dans le nord de la France. Elle a déjà une maison, elle est déjà propriétaire, bon, voilà. Et ça passait mieux que un couple de jeunes parisiens qui cherchent juste à avoir un toit au-dessus de la tête, quoi. Mais j'étais en colère, vraiment. Non, mais c'est absurde. Donc là, je me suis dit, bon, en même temps, tant mieux, ça marche. Ça veut dire que je peux en visiter d'autres, ça va marcher. Donc là, je me suis amusée un peu pendant une semaine. J'en ai visité 2-3 en plus. Ça a marché partout.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, consacrés à la galère des locataires et à la crise des loyers dans le monde. On en discute avec Yankel Fizialkov. Vous avez publié un livre sur les vulnérabilités du logement. Manuel Domergue est également avec nous. Il vient nous rejoindre de la Fondation Abbé Pierre, directeur des études. Bonjour Manuel Domergue.
Bonjour.
Vous avez entendu les témoignages, hein. On est dans la classe moyenne, hein, qui n'a pas de problème énorme, et pourtant ils sont obligés de tricher, ces jeunes, pour avoir accès à un logement. Je rappelle d'ailleurs que ça constitue une infraction pénale, hein, en tant qu'abus de confiance, et ça peut même être considéré comme faux et usage de faux, ce qui peut coûter une peine de prison et une amende élevée. Que vous inspirent ces témoignages sur la situation actuelle en France, Manuel Domergue ?
Ça montre en fait toute l'absurdité de la situation actuelle du marché du logement et des exigences un peu démesurées de la plupart des bailleurs qui le font parce qu'ils ont les moyens de le faire, parce qu'il y a suffisamment de candidats à la location derrière pour pouvoir trier parmi ces candidats. Et en fait, on a l'impression que le marché de la location privée est ouvert désormais à une sorte de modèle de ménage, un modèle de famille qui ne correspond pas à la réalité de la plupart des gens. C'est-à-dire le modèle d'un emploi stable, d'une situation familiale stable. Et il y a plein de gens qui n'entrent plus dans ce modèle parce qu'il y a une précarisation de l'emploi, il y a aussi une forme de précarisation des parcours familiaux, on va dire. Et tous ceux qui n'entrent pas dans le modèle type, même s'ils ont suffisamment de moyens pour payer un loyer, ont du mal à entrer dans le marché locatif privé, sauf à tricher. Et ça, c'est pas une situation très confortable, très agréable, très satisfaisante à la fois pour les personnes et puis collectivement, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation où on demande aux gens de faire des fausses fiches de paye. Et puis, il y a une sorte d'inégalité aussi devant, devant ces astuces qui, en l'occurrence, ne sont pas légales, hein, entre ceux qui sont malins, qui ont une mère pour se porter garant ou pour être la vraie fausse locataire du loyer, une compagne qui est étudiante et à qui on va pouvoir pirater le certificat d'étudiant, et ceux qui respectent les règles ou qui n'ont pas pensé à ces astuces-là et qui peuvent passer derrière les autres.
Ouais, concernant les fameuses cautions locatives, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France? Parce que ça aussi, c'est un vrai problème pour les jeunes.
Alors, dans les zones tendues, les bailleurs demandent essentiellement la caution parentale. C'est ça qui les rassure. Et les autres solutions existantes, soit privées, soit publiques, n'ont pas beaucoup de succès. Parce que la caution parentale, c'est simple. Ça donne l'impression, parfois fausse d'ailleurs, aux bailleurs d'avoir quelqu'un contre qui se retourner en cas de défaillance du locataire. Alors qu'on sait que parfois, ça marche pas. Et les garanties privées sont chères, à peu près 5% du loyer, et impose une discrimination envers les candidats à la location. C'est-à-dire qu'il faut être en CDI, sinon on n'a pas accès au logement locatif privé avec la garantie. Et les dispositifs qui existent depuis une quinzaine d'années, mis en place par l'État, pour cautionner de manière publique à la place des parents, des proches, des oncles et tantes, les candidats à la location, ont du mal à monter en puissance. Le dernier dispositif existant s'appelle VISA, le VISA pour l'accès au logement et l'emploi. Et il ne rassure pas beaucoup les bailleurs privés parce que ça change quasiment tous les ans, depuis 15 ans. Donc ça a du mal à stabiliser un dispositif que les bailleurs connaîtraient. Les bailleurs sont souvent des petits bailleurs qui ont 1, 2, 3 logements locatifs à mettre sur le marché. Et c'est un profil de ménage qui ne fait pas tellement confiance à l'État. Qui se dit qu'en cas de défaillance du locataire, ça va être compliqué. La garantie publique ne va pas forcément bien marcher. Alors que ce sont des dispositifs qui sont gratuits pour les locataires et pour les bailleurs, donc plutôt avantageux, et qui couvre de plus en plus de ménages. Au départ, c'était vraiment sur les ménages en état de précarité qui entrent dans un emploi, et maintenant, ça couvre quasiment tous les jeunes et les moins jeunes en état de précarité.
Tout le monde ou presque enfin, peut avoir accès à cette garantie publique, donc.
Oui, alors on peut la demander sur Internet, on l'obtient, et après, il faut que le bailleur soit d'accord pour l'accepter.
C'est ça.
Et en fait, souvent, ça
lui inspire parce que qu'elle lui inspire confiance.
Oui, mais en fait, ça lui inspire plutôt défiance parfois. Parce qu'il se dit, tiens, voilà un locataire, un candidat locataire qui a le dispositif visal, ça veut dire qu'il est précaire.
C'est ça, ça veut dire qu'il est pauvre. C'est quand même fou. Mais quelle est la réalité, en fait, des loyers impayés pour que le propriétaire soit à ce point-là obsédé par les ressources financières du locataire?
Alors, la réalité des impayés est assez modeste. Ça tourne autour de 2% de loyers impayés. Donc, c'est vraiment très minoritaire. Mais c'est vrai que quand ça arrive à un bailleur qui a un impayé structurel qui dure 6 mois, 1 an, 2 ans, ça fait une perte de ressources assez importante.
D'autant plus qu'on expulse beaucoup plus difficilement en France que dans d'autres pays.
Alors, hélas, on expulse assez facilement en ce moment, puisqu'on a encore battu un record cette année d'expulsion avec le concours de la force publique. 16 000 ménages qui ont été expulsés.
Ouais, plus 3% d'augmentation.
Voilà, donc, hélas, on expulse assez facilement. Mais c'est vrai que la procédure est longue.
Je voulais dire, par rapport à des pays anglo-saxons, par exemple, quand on a un bail d'un an, on est expulsable tous les ans.
Absolument, il y a des pays où les locataires ont moins de droits qu'en France, c'est une réalité. C'est pas pour autant que ce sont des pays où on est mieux logé, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait peur aux bailleurs d'avoir à affronter la justice, de faire des procédures, de payer un avocat parfois, etc. Tout ça, c'est vrai que ce sont des frais, ce sont des complications. Et donc si on peut s'éviter ça en choisissant un haut fonctionnaire, un fils d'ambassadeur ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus confortable.
L'obsession donc du locataire parfait. Vous nous appelez les voisins, les voisines, on parle de la crise des loyers, de la guerre et des galères des locataires. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins et la planète se barre.
On accueille un locataire, Julio, bonjour.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Et bon,
bonjour Kinshasa.
Ah d'accord, très bien. Okay. Donc vous êtes d'origine congolaise?
Absolument, absolument.
Alors vous êtes un locataire, vous avez en tout cas été un locataire dans la galère à Paris, vous avez 26 ans, vous êtes étudiant ou vous travaillez?
Je suis étudiant, en tout cas j'ai un statut chercheur universitaire. Donc, c'est logé en tant que locataire dans les grandes villes de Paris, dans les grandes villes, et en l'occurrence Paris, c'est un calvaire.
Oui.
Parce que lorsqu'on est étudiant et encore personne de couleur, Bien sûr, on a le choix de sélectionner un logement sur le site du CROUS, qui est une résidence universitaire, et autre site de location. Mais ce qu'on oublie, il y a des inégalités discriminatoires qui existent, en tout cas.
Alors, comment vous avez fait, vous, concrètement, pour avoir un logement?
Alors, la stratégie a été minutieusement réfléchie, moi et mon ami Blanc, parce qu'il fallait passer à travers lui.
Attendez, vous et votre ami Blanc, c'est-à-dire?
Absolument. c'est-à-dire que, figurez-vous que le bailleur impose ses recommandations, parce que je suis passé dans une agence immobilière, et le bailleur impose ses recommandations chez l'agent immobilière, les préférences, une femme. Et pour nous, les hommes, encore de couleur étudiants, nous sommes un peu délaissés. Donc,
c'est complètement interdit par la loi, hein, ça, un propriétaire qui dit... Oui.
La loi Dalo de 2007 interdit cela, je l'ai lu. Bon, nous avons établi une stratégie, c'est-à-dire que mon ami Blanc est passé dans l'agence pour se présenter et s'est porté en tant que locataire numéro 1. Moi, j'étais juste le second locataire, colocataire. Alors, comme dans le contrat immobilier, il y a une possibilité, après 3 mois de location, le second locataire peut récupérer le bail. Et fut le cas, en tout cas.
Donc, c'est comme ça que vous avez procédé pour être finalement locataire. Julio, vous soulevez en tout cas un vrai, vrai problème en France. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je suis désolée, je vous ai décourté parce qu'il y a d'autres auditeurs aussi qui voudraient s'exprimer. Et puis nos invités qui veulent réagir. Il faut quand même bien préciser qu'il y a des sanctions prévues par le code pénal en cas de discrimination. Il y a une étude qui a été publiée récemment par le défenseur des droits qui montre que des agences immobilières qui ont reçu une lettre qui leur rappelle la loi, elles vont moins discriminer, ça va un peu quand même les calmer, elles vont moins discriminer les candidats au logement. Il y a eu bien sûr les tests réalisés par SOS Racisme qui ont prouvé que les agences qui effectuent effectivement des tris selon les origines des candidats au logement, un candidat qui a un nom à consonne maghrébine ou africaine a quasiment 27% de chances en moins que la moyenne des candidats de recevoir une réponse positive pour visiter un logement quand ils répondent à une petite annonce. Manuel Domergue, vous qui êtes directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, où est-ce qu'on en est avec les discriminations aujourd'hui, ça reste un énorme problème.
Oui, tout à fait. Davantage dans les zones tendues d'ailleurs, parce que c'est là que les bailleurs ont le choix des locataires. Et les bailleurs, soit par idéologie, par préjugé ou quoi que ce soit, pratiquent assez massivement des discriminations. C'est moins le cas dans le parc social, dans l'accès au parc HLM, même si ça arrive aussi parfois. Dans le parc privé, en revanche, c'est assez massif. Et évidemment, c'est illégal depuis toujours de discriminer selon l'origine ethnique des personnes, mais c'est très difficile à prouver. Alors, les testings, en envoyant une demande de location de la part d'un locataire d'origine française, un autre d'origine africaine, peut prouver qu'il y a une discrimination. Mais les sanctions sont extrêmement rares de la part de la justice.
Le logement est perçu comme le principal sujet de discrimination, d'ailleurs, juste derrière l'emploi. Yankel Fijalkov, est-ce qu'il y a d'autres villes où c'est un vrai problème comme ça ailleurs dans le monde? Parce que, par exemple, les Africains à Montréal disent « c'est pas du tout un problème ». À partir du moment où on a des revenus, bien sûr, on peut payer son loyer. C'est ça qui compte pour le propriétaire.
Oui, alors ils sont peut-être mieux défendus. En sociologie urbaine, on a un ouvrage qui est un classique parle plutôt des villes américaines, qui s'appelle American Apartheid, et qui montre effectivement le rôle des agents immobiliers dans la répartition entre blancs et noirs dans les différents quartiers. Donc, ce sont des micro-phénomènes, mais qui ont des macro-effets, et il serait fâcheux qu'on en arrive à ça dans les villes européennes. Donc, c'est un phénomène effectivement à surveiller.
Alors il y a quand même un phénomène mondial, c'est qu'il y a de plus en plus de réglementations, y compris dans des pays très, très libéraux. L'État de New York s'est doté d'une réglementation, une loi contre la flambée des loyers. Alors on a un témoignage de Daniel qui est à Abomey-Calavi au Bénin. Il a 29 ans et il dit, il travaille dans un laboratoire pharmaceutique, et il dit ça fait un an que j'habite chez moi grâce au gouvernement qui a voté une loi qui impose la caution à 3 mois mois maximum. Avant, au Bénin, c'était 6 à 8 mois de caution. J'ai habité avec mes parents jusqu'à 28 ans et je peux louer aujourd'hui, grâce à cette nouvelle loi. Je paye 20 000 francs CFA, c'est-à-dire 30 euros de loyer par mois, et le gouvernement devrait maintenant agir sur les tarifs des loyers. Est-ce que les réglementations ont maintenant un effet sur ce marché des loyers qui est de plus en plus tendu? Est-ce qu'il y a un effet positif?
Il y a un effet positif, mais il faut toujours faire attention. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours le risque que les propriétaires retirent du marché. On a quand même 4 millions de logements vacants en France. Alors, pas uniquement, évidemment, à cause de la réglementation et des règles de baux, mais c'est quelque chose qui est quand même tendanciel. Donc... il faudrait faire attention entre trop réglementé et pas réglementé du tout.
Manuel Domergue, on va vous laisser le mot de la fin en tant que directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, à la fois concernant le marché locatif privé, mais plus largement aussi sur les pénuries de logements sociaux à loyer modéré et pour les personnes les plus vulnérables dont vous vous occupez en particulier?
Il y a deux grands domaines sur lesquels l'État et les collectivités locales peuvent agir. Dans le domaine locatif privé, on peut encadrer les loyers, ça a été dit. Berlin a décidé de les encadrer de manière très stricte pour plusieurs années. C'est une décision très populaire, alors qu'à Berlin, je le rappelle, le niveau des loyers est trois fois moins élevé qu'à Paris. Donc l'encadrement des loyers qui était prévu par la loi de 2014, qui n'a quasiment jamais été mis en place depuis, devrait pouvoir se redéployer si les élus locaux sont volontaristes pour le faire. Donc dans les villes très tendues, c'est nécessaire non pas pour faire une baisse massive de loyer qui pourrait décourager les bailleurs, comme l'a dit Yankel à l'instant, mais pour donner des limites. Voilà, ne pas dépasser certains abus quand on a des loyers à 40-50 euros du mètre carré.
Il y a déjà un encadrement à Paris et à Lille.
Alors à Paris, c'est redevenu la norme il y a quelques mois, mais ça nécessite pour avoir une efficacité d'être mis en place pour des années, pas simplement quelques mois. Et quand ça a été mis en place pendant 2 ans, ça a produit des effets. Modeste, mais réel, sans faire partir les bailleurs. Et puis le grand outil que les collectivités et l'État ont à disposition pour loger les personnes défavorisées, c'est bien sûr le logement social. En France, ça fait 100 ans qu'on a une politique assez intéressante sur le sujet pour financer les 5 millions de logements sociaux qu'on a. Beaucoup de pays nous l'envient. Il faut développer davantage cette offre-là parce que c'est une dépense publique qui est bien fléchée vers des ménages qui en ont besoin. Il n'y a pas de profit de la part des bailleurs, etc., parce que les bailleurs sociaux sont des acteurs à but trop lucratif. Encore faut-il les financer. C'est le principal poste d'économie de la part de l'État depuis 2 ans, c'est le logement, en particulier le logement social. Et je rappelle qu'il y a 2 millions en France de ménages en attente d'un logement social, y compris des personnes à la rue, chez les marchands de sommeil, dans les bidonvilles. C'est intolérable. Là, on a une politique qui marche, qui n'est pas très originale, il n'y a pas besoin d'expérimenter des choses. Il faut simplement bien la financer et qu'il y ait une volonté politique locale, des élus locaux, d'imposer parfois ça aux riverains, aux citoyens, qui peuvent voir ça avec un œil un peu méfiant, avec les préjugés qu'on a sur les logements sociaux, sur les pauvres comme qui seraient parfois des mauvais voisins, qui sont souvent des fantasmes. En réalité, le logement social, ça rend la ville plus belle, plus abordable, ça permet d'avoir de la mixité sociale et d'avoir des logements de meilleure qualité. Donc il faut vraiment axer sur la production de logements sociaux et leur répartition sur le territoire.
Eh bien, merci beaucoup, Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre. Je le disais, 2018, 16 000 ménages ont été expulsés, une augmentation de près de 3%. On verra d'ici quelques semaines quels sont les chiffres pour 2019. Demain commence la trêve hivernale jusqu'au 31 mars et l'hiver s'annonce certainement en flux très tendu pour ceux qui n'ont pas de logement. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Manuel Domergue, et très bonne journée à vous. Et merci à vous, Yankel Fijalkov. Vous avez publié le Vulnérabilité résidentielle aux éditions de l'Aube. Où vous êtes co-auteur, et Sociologie des villes aux éditions La Découverte. Demain, 7 milliards de voisins. Je vous propose de réécouter notre émission sur la mémoire, comment fonctionne la mémoire, comment l'entraîner. Et merci à toute l'équipe, Nicolas Benita, Donatien Cahu, Cécile Lavolo, Delphine de Dianus. Littérature sans frontières.